appelle. Quoi.
Bon, j'espère en tout cas que vous allez vous en sortir. Vous nous tiendrez au courant, bien évidemment, si les choses s'arrangent pour vous. Je suis obligé de vous quitter maintenant. Gilles, ben, courage à vous. Et puis ne manquez pas de nous tenir au courant, bien évidemment, si les choses évoluent. Il est minuit sur Europe 1. Et c'est un dernier tour de l'info avec vous, Manassani, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Interdiction immédiate de la vente des couteaux aux mineurs. Première réponse de l'exécutif après la mort d'une surveillante de collège tuée par un élève de 14 ans ce mardi matin devant un établissement de Nogent en Haute-Marne. Le Premier ministre François Bayrou envisage également d'expérimenter l'installation de portiques à l'entrée des écoles. Emmanuel Macron veut cibler quant à lui les réseaux sociaux. Le président de la République compte en interdire l'accès aux moins de 15 ans. La surveillante tuée ce mardi s'appelait Mélanie. Elle était mère de famille, âgée de 31 ans. Le meurtrier est donc un adolescent de 14 ans, inconnu des services de police. Il se trouve toujours en garde à vue. Selon la ministre de l'Éducation nationale, le suspect ne posait pas de difficultés particulières, même s'il avait été exclu temporairement de son collège à deux reprises pour des perturbations en classe. Un drame en milieu scolaire également en Autriche. Ce mardi, 10 personnes tuées dans une fusillade dans une école située à Graz, dans le sud-est du pays. Parmi les victimes, un Français de 17 ans. L'assaillant est un ancien élève. Il s'est donné la mort après la tuerie. 3 jours de deuil national décrété par le chancelier autrichien. Nous ne laisserons pas une ville américaine être envahie et conquise par des ennemis étrangers. Les mots de Donald Trump lors d'un discours devant des militaires ce mardi soir. Le président américain fait référence à la situation à Los Angeles. 4000 membres de la garde nationale et 700 marines d'actives sont déployés dans la mégalopole californienne, théâtre d'affrontements entre manifestants pro-migrants et forces de l'ordre depuis plusieurs jours. Donald Trump y voit, je cite, un assaut généralisé contre la paix, l'ordre public et la souveraineté nationale. Le parquet de Laon dans l'Aisne écarte à ce stade la piste criminelle après l'incendie d'un immeuble du centre historique de la ville ce lundi dernier. Le sinistre a provoqué l'effondrement du bâtiment, tuant 2 pompiers volontaires engagés dans la lutte contre les flammes. Ces jeunes soldats du feu de 22 et 23 ans retrouvés morts sous les décombres ce mardi à la mi-journée après plusieurs heures de recherche. Les taxis commencent à converger vers Bercy. Des chauffeurs venus de toute la France prévoient de stationner devant le ministère de l'économie ce mardi soir et demain, toujours pour protester contre la nouvelle tarification du transport sanitaire. Des blocages également prévus tôt ce mercredi matin autour des 2 principaux aéroports parisiens, Roissy et Orly. 2 dossiers retenus par le Paris Saint-Germain sur 10 de candidatures pour accueillir le futur stade du club. Les sites proposés par les communes de Massy en Essonne et de Poissy dans les Yvelines sont présélectionnés par la direction du PSG. Après des études plus poussées, le choix final sera annoncé fin 2026. Cette nouvelle enceinte devrait contenir 60 à 90 000 places, bien plus que les 48 000 du Parc des Princes. Et puis, Ray Charles s'est éteint il y a 21 ans, jour pour jour. Il avait 73 ans. The Genius, devenu aveugle à l'âge de 7 ans, est l'un des pionniers de la soul. 17 Grammy Awards à son actif, dont celui de la meilleure performance vocale pour ce titre, Hit the Road Jack, en 1961.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Said.
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come.
Hit the Road Jack. Inoubliable.
Inoubliable,
aussi.
Bien évidemment. Repris dans plein de publicités. Voilà, c'est inoubliable et éternel Ray Charles. Ben, merci, mon cher Maël.
Mais avec grand plaisir.
On vous souhaite une bonne nuit.
Merci beaucoup.
De beaux rêves. Et puis, on se retrouve demain soir.
À demain.
À demain.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez à tout moment, vous le savez, nous contacter et composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter. Europe 1 est avec vous et démarre votre journée avec Dimitri Pavlenko et Anissa Haddadi qui vous donnent rendez-vous demain dès 7h. Et ils ne sont pas seuls. Olivier Delagarde, Sonia Mabrouk, Vincent Herouette, Emmanuel Ducrot et Eugénie Bastier, toutes les signatures d'Europe 1 Matin et l'ensemble de la rédaction vous attendent pour Europe 1 Matin tous les jours de 7h à 9h. Alors on vous donne bien évidemment rendez-vous dès demain matin avec Dimitri Pavlenko et Anissa Haddadi pour Europe 1 Matin dès 7h. Nous accueillons Ange maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Ange.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier, merci d'avoir pris mon appel.
Mais je vous en prie. D'où m'appelez-vous Ange et quel âge avez-vous ?
Alors je vous appelle des Hautes-Alpes, du département des Hautes-Alpes.
D'accord.
Voilà.
Et quel âge avez-vous ?
J'ai 81 ans.
D'accord. Très bien.
Alors, je pense qu'il est important que je me situe un petit peu pour que vous compreniez mieux ce que j'ai à dire en fait ce soir. Donc, je suis né en 1944 sur les hautes plaines d'Algérie, sur les hauts plateaux. Vous savez, la porte du Sahara, en fait.
Oui.
Oui, à peu près, quoi. Donc,
oui.
Les hautes plaines. Et donc, je suis issu de famille andalouse, puisque mes grands-parents sont partis d'Andalousie au 19e siècle pour trouver du travail en Algérie française à cette époque-là.
D'accord.
Donc j'ai encore des papiers à demi déchirés, enfin très très anciens, qui sont là. Et donc nous sommes des, non pas ces pieds noirs dont on parle, qui venaient de France avec des bottes, vous savez, à cheval, on avait des bottes noires.
Oui.
C'est ce qui a fait qu'on a appelé ces gens qui arrivaient de France avec les chevaux pour une histoire d'ailleurs particulière, qui était une histoire de dette. Et c'est ma sœur qui est décédée il y a encore 3 mois qui m'en parlait, en fait.
Oui.
Il y avait le dé d'Alger à l'époque, je vous explique, qui avait demandé une aide à la France. L'Algérie n'était pas à proprement parler, comment dirais-je, une nation constituée. C'est un peu comme ça se passe dans l'islam, si vous voulez. Hein. Donc, c'est des sortes de califats. Voilà. Alors là, c'était le D, D-E-Y. Lorsque l'émissaire français est venu demander le remboursement de la dette à l'époque, il a eu comme réponse un coup de chasse-mouche dans la figure. Voilà des choses que beaucoup de gens ignorent.
Un coup de quoi,
alors,
vous
bien
dites
sûr, en France. Ben, il est allé dire ce qui venait d'arriver, ce qui voulait dire que la dette, eh bien, ça passait à l'as. Alors, aussitôt réaction de la France, c'était d'aller se rendre en Algérie pour récupérer cette dette en envoyant l'armée. Donc, c'est la prise de Saïda s'est faite, où je suis né, avec le général Lamoricière à l'époque. Et donc, les premiers soldats qui sont restés sur place en attendant la résolution de ce problème avaient construit un fort qui s'appelait le fort de la Redoute.
D'accord.
Est-ce qu'il existe toujours aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Moi, je suis rentré en 1962 de ma terre natale, donc après la fin des événements d'Algérie. Et donc, je suis un peu un témoin de l'histoire sur plusieurs plans qui font que... enfin, témoin qui fait que je peux avancer quelques solutions pour les problèmes que rencontre la France aujourd'hui au niveau politique, avec toutes ces populations venues de justement d'Algérie, enfin du Maghreb, etc. Et tous ces problèmes dans les cités, voilà. Donc, je peux me faire une idée, elle vaut ce qu'elle vaut, vous me direz, elle est personnelle, hein. Mais chaque fois que j'entends votre collègue Pascal Praud le matin,
oui,
dire et s'exciter à répéter et à répéter, qu'est-ce qu'on fait finalement dans notre pays maintenant ? On sent bien que le gouvernement est débordé. On sent bien que notre pays a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Il y avait d'ailleurs un homme politique en Algérie à l'époque, je m'en souviens, qui disait, qui avait dit au général de Gaulle, si vous donnez l'Algérie, mon général, vous donnerez la France. Or, on voit se dessiner ce chemin et se dessine chaque jour davantage. Il est de plus en plus précis. Alors voilà. Donc, moi, ce que je propose, et ça va peut-être contenter Pascal Praud, je n'en sais rien, je suppose. Alors, je vais, par contre, vous raconter deux anecdotes qui vont bien mettre les points sur les i de cette affaire. Première chose, j'étais enfant. En sortant de l'école, au lieu de rentrer à la maison, nous étions assis sur le bord du trottoir, il devait être environ 5 heures. À l'époque, il n'y avait pas le décalage horaire. Hein.
Oui.
Voilà. Et donc, j'étais assis avec, je suis d'origine espagnole, avec un autre petit espagnol. Nos papas respectifs étaient des tâcherons, c'est-à-dire des gens sans fiche de paye, des gens qui travaillaient à la tâche, comme on disait à l'époque,
oui,
c'est-à-dire au rendement, dans le bâtiment ou dans autre chose, ou dans l'agriculture. Et ce fameux après-midi, ce garçon habite près d'Arles, donc je ne donnerai pas son nom, bien entendu. En fait, il nous a sauvé la vie, cet après-midi-là. Le commandant de la Légion étrangère de Saïda avait promis de venir faire un discours sur la place de la mairie. Ça devait être en 59, par là, à peu près. Et pour essayer de mettre un peu de calme dans ces populations. Et puis, il avait promis de venir sans armes. Donc, il est apparu avec des légionnaires autour de lui. Il avait convoqué la population. Seulement, comme les légionnaires ne sont pas plus bêtes que les autres, ils avaient malgré tout garé quelques GMC, c'est-à-dire, vous savez, ces fameux camions militaires de l'époque, dans des petites rues, un peu à l'écart, pour surveiller malgré tout. Effectivement. Alors, vous allez voir, il y a mon petit camarade qui me dit « Ange, surtout, ne regarde pas la personne qui vient derrière nous. » Alors, je me demandais ce qui se passait. Il me dit « Je pense que c'est quelqu'un qui va vers la mairie, là. Il y a un souci. » Il me dit « Je vois un canon, de, je sais pas, de PM, je ne sais pas ce que c'était, qui sortait par le, comment dirais-je, quand vous avez une djellaba là-bas, vous pouvez avoir les bras cachés, tenir une arme par la crosse et vous voyez déborder le canon par le col de la djellaba là-bas. Donc on voyait que ça, et puis j'ai vu le regard, et ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, c'est que ce personnage, qui avait l'air extrêmement sportif, qui portait des pattes au gaz pour le désert, avait l'air extrêmement entraîné. Vous allez voir pourquoi je dis ça, entraîné au combat. Seulement, je n'ai pas reconnu sur ce visage un visage de type arabe. C'était un garçon plutôt blond, yeux clairs. Il n'avait rien, rien, absolument rien d'un arabe. Il me faudra des années plus tard pour comprendre ce que disait le Bachaga Boualam, qui avait des responsabilités à Paris à l'époque, qui habitait Boissonis. C'est un homme très aisé qui avait beaucoup de personnel pour garder ses troupeaux, etc. Voilà. Et qui disait « Je ne me bats pas contre le FLN, nous nous battons contre le maquis rouge. » Ce qui est tout à fait autre chose. Alors, qu'était ce maquis rouge, en fait ? Eh bien, je pense que, et je ne vais pas le cacher, je n'ai peur de rien, je pense que l'URSS de l'époque était derrière, en fait, derrière cette affaire. Déjà, en témoigne de ce militaire. Alors, donc, pour finir la petite anecdote, je dis à mon petit camarade, dès qu'il aura passé le carrefour, il y a un policier qui est devant l'école de filles, il faut vite rentrer à la maison. C'est ce qu'on a fait aussitôt, la mitraille a commencé à se déclencher, le policier a été tué, une vieille dame qui habitait en face de cette école de filles a été massacrée, elle fermait les volets en bois, tu parles. Les volets en bois, ça n'arrêtera pas des balles de mitraillette. Donc elle a été tuée sur le coup également. Et donc ensuite, on est rentré chacun chez soi. Et moi, j'habitais une maison où il y avait une terrasse qui est donnée sur la rue. Et donc tous ces légionnaires qui étaient en embuscade dans les rues adjacentes sont sortis des camions pour le poursuivre. Et j'ai reconnu ce même homme que j'avais vu et qui avait une technique de combat extrêmement particulière. Les légionnaires ne pouvaient pas tirer dessus. C'était absolument impossible.
Pourquoi ?
Il courait dans l'axe de la rue, courbé, et pour ne pas vider le chargeur, un coup je tire à droite, un coup je tire à gauche et je continue de courir. Effectivement, les légionnaires étaient obligés de se cacher derrière les troncs d'arbres qui étaient sur les trottoirs, jusqu'à ce qu'ils passent sous ma terrasse. Donc j'ai bien vu le système, et il entre dans une maison de passe, on disait à l'époque, où il y avait beaucoup de femmes musulmanes, enfin, qui étaient là pour les besoins de la cause. Et les légionnaires qui couraient, ça parlait toutes les langues. Et puis, on a poursuivi cet homme jusqu'à le faire sortir de cette maison. Donc, je dirais que c'est ce petit camarade qui nous a sauvé la vie, en fait.
Oui.
Parce que si on avait insisté à regarder cet homme, je pense qu'on était liquidés tous les deux.
D'accord.
Voilà la vérité. Donc, il y a une deuxième chose. Ça, c'est une anecdote. Maintenant, je suis témoin d'autre chose sur la ville de Saïda où je suis né.
Oui.
Car tous les samedis, on avait un écho, une revue de la ville qui s'appelait l'écho de Saïda. Qui s'écrivait à l'époque S-A-I-T-R-E-M-A-D-A, et qui s'écrit aujourd'hui S-A-Y-D-A, depuis que l'Algérie est algérienne. Alors moi, ce qui me frappe, c'est de voir ce qui s'est passé avec le Bachaga Boualam et l'Élysée à l'époque. Il a fait un livre, que vous pouvez trouver très facilement, d'occasion certainement, qui s'appelle « Mon pays, la France ». Où il explique bien le problème. On était assuré ensuite que l'URSS était dans le coup, dans la mesure où des bateaux venaient sur la base de guerre d'Arzeux pour livrer du blé, enfin de la nourriture pour les soldats du soi-disant FLN. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'au moment où le général de Gaulle a dit « Algérie algérienne », je vous ai compris, très bien, on met fin aux hostilités. En fait, ce n'était pas ça du tout. C'est que l'indépendance a été prononcée, des combattants de ce maquis rouge sont venus, c'était des musulmans algériens, sont venus rencontrer Bachaga Boualam dans sa propriété, directement. parmi lesquels un responsable. Et donc, il a été conduit par les hommes du Bachaga jusqu'à son appartement, dans la grande ferme. Et il est venu simplement dire, voilà Bachaga, je viens déposer les armes, j'ai plusieurs milliers d'hommes derrière moi, nous déposons les armes, nous avons décidé, nous n'avions pas compris le problème, maintenant c'est la France que nous choisissons. Or, donc deuxième chance pour la France, cette soi-disant colonisation. Les autochtones eux-mêmes demandaient à ce que la France continue de gouverner en Algérie. Alors, voilà, je voudrais donc témoigner maintenant.
Il faut accélérer un petit peu, mon cher Ange, parce qu'on n'a plus que 5 minutes, donc dites-moi.
Oui, oui. Alors, si vous regardez ce qui s'est passé dans le Sahara, les pays subsahariens, vous apercevez qu'à nouveau, les Wagner ont travaillé à monter la tête, que ce soit aux Nigérians, aux Maliens, au Burkina Faso, au Burkinabé, leur travaillent la tête contre la France. Tout le monde l'a bien vu, hein. Ah ben la France, on voyait ça sur des drapeaux, c'est tout récent. Monsieur Prigogine a été liquidé très peu de temps après avoir réalisé sa mission. Donc en fait, depuis l'Algérie, donc si vous voulez, c'est un tournant que nous trouvons aujourd'hui, dans lequel la Russie est très impliquée. On sait que monsieur Tebboune a passé un contrat de guerre. Un pacte de guerre avec M. Poutine, il y a environ 2 ans. Il s'est pavané là-bas, au Kremlin. Et donc voilà où nous en sommes. En fait, si vous voulez, c'est un encerclement de l'Europe. Niveau géopolitique.
Ouais. Ange, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de messages qui tombent et c'est la libre antenne d'Europe 1 et on ne traite absolument pas de d'histoire, de politique et sur ce moment de la journée. Donc je vous renvoie à rappeler Pascal le matin que vous devez écouter et peut-être lui soumettre un peu tout ça. Mais vous voyez, sur la libre antenne d'Europe 1, on est plus à parler du quotidien, des problématiques. Je vous remercie pour votre appel en tout cas.
Merci de m'avoir écouté jusque-là.
Je vous en prie et bonne soirée à vous, Ange. Merci.
Voilà, merci. Bonne soirée.
Au revoir.
Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
Finalement, après quelques années, les hommes ont remplacé des poupées. Et les glaïeuls posés dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui court, court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Parce que le temps qui court, court, change les plaisirs. Et que le monde
Alain Chamfort sur Europe 1, avec cette reprise, Le temps qui court. Ah, c'est l'original, me dit Laurent Pelé. Je ne pensais pas que c'était l'original, d'accord. C'est une chanson d'Alain Chamfort ? Absolument, d'accord, très bien. Eh bien, je ne savais pas, j'ai appris, parce qu'elle a été reprise, cette chanson, par Alliage, c'est ça. Incroyable. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Il est minuit 27 et nous accueillons Didier maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir Olivier, comment allez-vous ?
Ça va et vous ?
Je suis très honoré de vous entendre et pouvoir discuter avec vous.
Bah écoutez, merci.
Je vous écoute toutes les nuits, je vous écoute, je m'endors sur Christophe Fondelat et Europe 1, c'est toujours la première radio, mon Dieu.
Bah écoutez, merci beaucoup pour votre fidélité, mon cher Didier.
C'est moi qui vous remercie, comme Olivier. Et une parenthèse, un grand merci à Florian. Quelle gentillesse et voilà, qui pas dure très longtemps sur l'antenne.
D'où m'appelez-vous ?
De Vizandasque et j'ai 50 ans.
D'accord, très bien. De quoi voulez-vous me parler ? Dites-moi.
Alors, c'est suite à ma situation actuelle, donc juste pour faire comprendre. Donc, je suis actuellement salarié depuis 3 ans. Donc, je travaille depuis 3 ans, donc je suis salarié.
Oui.
Le 25 décembre, je me suis cassé la jambe. Donc, une chute toute banale. Qui m'a entraîné 5 mois d'arrêt.
Oui.
Je suis en arrêt depuis 5 mois. J'ai repris hier matin. Mais j'ai failli, je travaille. Et pour faire comprendre, c'est les 2 premiers mois, enfin les 3 premiers mois, il y a un maintien de salaire. Donc le maintien de salaire avec CPAM. Hein. Donc un salaire qui est convenant. Et depuis 2 mois, il n'y a plus de maintien de salaire. Donc c'est, on passe d'un certain montant à des indemnités journalières. Donc, ce qui inclut plein de soucis de facture. Ce que je fais comprendre, c'est que, donc, comme j'expliquais à Florian, quand j'ai eu la chance de l'avoir,
oui.
C'est, y a des entreprises qui ont des assurances. Des assurances qui couvrent. Donc, qui couvrent pour moi, tout le monde. Et on m'a promis, depuis 2 mois, malgré que j'ai expliqué, hein, je suis dans une galère, une descente aux enfers en vérité. Pourtant, donc, je travaille tous les jours, j'ai jamais manqué une journée, je suis toujours à l'heure.
Oui.
Enfin bref, je suis ponctuel, hein, en vérité.
D'accord.
Des vacances, je n'en prends pas parce qu'il faut que je travaille, quoi. Et je suis tout seul, il faut que je paye tout, enfin bref. Et depuis 2 mois, la boîte m'a lâché. Donc, on m'a promis avec leur groupe d'assurance. Parce qu'ils ont une assurance. Hein. On m'a promis de pouvoir me donner un petit coup de main, quoi. Mais c'est que des paroles, quoi. Donc là, j'ai appris le travail hier matin.
Oui.
Hier matin, que tout se passe bien. Hein.
Mm-hmm.
On m'a appris maintenant que mon poste, je ne l'ai plus. Donc j'étais chef de file.
Maintenant, c'est quoi chef de file, Didier ?
Chef de file, c'est Olivier, pour faire comprendre, je suis dans la restauration, je suis en préparation de plats.
D'accord.
Dans un labo.
D'accord.
Dans un labo. Mmh. Donc, chef de file, je suis en tête de file et je dois tout gérer, quoi.
D'accord.
Donc, veiller à ce qu'il ne manque pas un ingrédient, parce que le client doit être satisfait. S'il y a une chose qui manque, les clients vont remonter ça au resto, le resto au siège. Et après, c'est en écoute sur moi, quoi.
D'accord.
Donc, je passe du chef de file maintenant que je suis au dispatch. Donc, on a descendu d'échelon sans vouloir, hein. Donc, d'où mon arrêt. Donc, sous prétexte d'un arrêt de travail, j'apprends hier matin que le poste, tu l'as plus. En gros, on se met partout. Donc, après 5 mois, donc là, j'ai une fracture du type péroné. J'ai un clou, j'ai des vis, je suis bourré partout. Mais j'ai eu un travail, mais on me donne encore 2 papiers de travail, alors qu'il vaille ma situation. Hein. Mais bon, donc c'est juste pour faire comprendre que. Moi, je ne comprends pas. La chose que je ne comprends pas, c'est qu'il y a les grosses entreprises. La mienne travaille bien. Hein. Je suis beaucoup de millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein.
D'accord.
Et quand on leur demande pour avoir ne serait-ce que 300 euros, 400 euros, juste au moins une chose qui puisse compenser mes indemnités journalières, parce que je passe d'un gros salaire à un petit salaire.
Mais pourquoi vous passez d'un gros salaire à un petit salaire ? Vous avez eu un accident du travail, ils n'ont pas le droit de...
Non. Non, non, c'est un accident quotidien. C'est
oui,
un accident,
enfin, même un accident
tous les jours.
Oui, mais un accident quotidien, ça...
Je suis en arrêt de travail, je ne suis pas en accident de travail.
D'accord, vous êtes en arrêt de travail, mais vous avez repris il y a 2 jours, vous me dites.
Oui, j'ai repris hier matin.
D'accord.
Et on vous a... mais je travaille quand même.
On vous a annoncé qu'on vous baissait votre salaire ?
Non, c'est le poste qui a...
Ah oui, le poste,
qui est
vous ne l'avez plus.
Qui a redescendu.
D'accord.
Donc j'ai plus mon poste, donc on me prend, malgré ma situation, qui est très compliquée. Hein. Je fais des efforts sur moi-même.
Hein. Bah, bien sûr.
J'ai encore de la rééducation à faire jusqu'en fin juillet, chez mon kiné. Hein. Mais ma jambe va mieux. Hein.
D'accord.
Je vous rassure. Hein.
Mais maintenant, si j'ai bien compris, vous avez un poste moins important, donc le salaire est moins important.
Exactement.
Mais ça, c'est... Ça n'est pas normal, du tout.
Bah non, justement, donc...
Et je crois même que ça n'est pas légal.
Bah non, justement, c'est la raison pour laquelle j'aimerais justement pouvoir en discuter avec vous. Parce que même, j'ai beau demander, j'ai beau me renseigner, hein. Je peux pas baisser fin de salaire.
Bah, c'est enfin, une entreprise qui a beaucoup de salariés, puisque vous me dites qu'elle fait des millions de...
Oui.
Donc il y a obligatoirement un syndicat dans votre entreprise.
Non, justement. C'est une chose qui...
Il n'y a pas de syndicat ?
Non, c'est une chose qui n'existe pas. Et ça serait bien que s'il y a un syndicat, ça risquerait de nuire à...
Eh ben oui, mais sauf que normalement...
À eux, quoi.
Oui, mais normalement, ils sont... Enfin, je crois que c'est obligé, hein, au-dessus de 50 salariés ou... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à partir d'un nombre exact de salariés, je crois que c'est... Oui. Je crois que c'est 50, mais peut-être même est-ce un peu moins. Normalement, il doit y avoir un syndicat.
Bah, là, on est plus de 200 en vérité.
Il n'y a pas de syndicat.
Non, il n'existe aucun syndicat.
Il n'y a même pas un regroupement de salariés pour défendre vos droits s'il y a un litige entre
eux. Aucunement.
D'accord.
Aucunement.
Donc, ils font ce qu'ils veulent.
Vous avez tout dit. C'est la raison pour laquelle, donc, comme j'expliquais à Florian, quand j'expliquais mon petit problème, hein, c'est le fait que, du fait qu'il n'y a pas de syndicat, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, et on s'est laissé les gens à l'abandon comme ça. Alors pourtant, je suis quelqu'un de... Ou que je dis, hein, je suis ponctuel, j'ai manqué une journée, même en étant malade, je suis au boulot, j'ai eu... Le jour où je suis allé au boulot, même si vous saviez, mon Dieu. Et le remerciement, il n'y a rien. Donc, du fait qu'il n'y a pas de syndicat, donc j'ai beau discuter avec les RH. Hein. Les RH me promettent, hein. J'ai plein d'envois par mail, hein. En retour. Hein. On me dit oui, Didier, on va donner un coup de main, mais voilà. Donc là, maintenant, ils ne feront plus, parce que j'ai repris le travail hier matin. Donc, c'est que du vent. Donc c'est juste pour, enfin, juste pour dire que aux gens qui sont dans des entreprises, hein, il faut bien lire, enfin, quand on signe un contrat, il est mis sur contrat, c'est pour laquelle on vous emploie. Hein.
Oui, oui.
Mais il n'y a pas de choses qui sont autres pour bien expliquer s'il arrive une chose de la vie quotidienne. Quoi.
Oui, oui.
Et laisser donc quelqu'un qui se disant que je suis important pour eux, hein, là ils ont peur que je parte. Hein. Mais... rien n'est dit, si un accident dans le quotidien. C'est... Et quand il se passe dans cette chose-là, je me suis cassé la jambe le 25 décembre. C'est une date qui est magique. Je fais une parenthèse parce que j'ai mon frère qui s'est pendu le 25 décembre, il y a 3 ans. J'ai perdu mon père il y a 2 ans, le jour de l'anniversaire de ma sœur. C'est vraiment vous dire. Hein. C'est des dates qui sont... Enfin, qui sont... Voilà, c'est indescriptible. Mais... laisser quelqu'un qui est important dans une boîte, enfin, on se dit important dans une boîte, c'est les gens qui le disent. Hein. C'est les patrons, le patron de la boîte, c'est rare qu'il vient. Hein. On a bon contact, hein, mon Dieu. J'ai les directeurs de région, j'ai les managers. Hein. Donc devant nous... On fait croire monde des merveilles. Hein. Mais en vérité, on ne restera qu'un seul numéro. Hein. C'est un numéro de bulletin de salaire. Hein. Le nom n'existe pas en vérité.
Malheureusement, oui.
Donc savoir que voilà, quand il y a quelque chose, les gens veulent dire on va donner un coup de main. On ne laisse pas tomber. Quoi. Mais au final, si. Donc hier matin, j'ai appris, dès mon retour, hein, parce qu'on ne me l'a pas dit avant par téléphone. J'ai eu le manager au téléphone avant,
oui.
Avant ma reprise, hein, en disant bah, « je suis content de te voir, voilà, tu manques à tout le monde, il manque des voix, enfin bref ». Et apprendre hier matin que bah, mon poste, bah, j'ai plus mon poste, le salaire, bah, il est plus bon, quoi. Mais pourtant, je suis quand même présent au boulot, j'y suis et je vais y rester, hein. Mais bon, c'est faire comprendre que, voilà, il peut arriver n'importe quoi comment dans la vie et on vous laisse tomber.
Mais, c'est... Oui, mais en fait, vous êtes coincé, en fait, parce que vous ne pouvez pas les attaquer, autrement vous allez être licencié.
Voilà, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça.
C'est ça. En fait, vous n'avez qu'un droit, c'est de la fermer, en fait.
Bah, en gros, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça.
Bah, oui.
Et le droit de rien dire, il faut être présent, parce que si tu n'as pas de travail, ben, tu n'as pas de paye. Donc, fais ce que je te dis, et puis c'est tout. Ce qui est vraiment honteux, hein. C'est honteux. Mais bon. Mais comme je vous dis, hein, donc c'est la descente aux enfers, parce que là, mon salaire a baissé quand j'ai eu mes indemnités journalières. Hein. Je passe d'un beau salaire à 700 euros.
À 700 euros,
ça couvre. Ouais, bah oui. Hein. Ça couvre que le loyer, quoi. Et après, j'ai plein de factures. Là, ça fait. Allez, je suis pas un gros mangeur. Hein. Ça fait 2 mois que je mange pas, en vérité. Je mange très peu. Parce qu'il faut que je me compense. Ce qui est.
Alors, j'ai une précision. C'est, oui, je suis d'accord avec vous. C'est une précision. Anne, au 739-21, nous dit « Attention, un syndicat n'est pas obligatoire, mais un CSE, si. Le CSE est anciennement les représentants du personnel. En fonction du nombre de salariés, le CSE compte un ou plusieurs représentants. » Donc ça veut dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même quelqu'un qui représente les salariés dans votre entreprise.
Ben, moi, je ne connais pas en vérité. Hein.
Ben, il faut que vous le cherchiez, Didier. Parce que, je pense que là, votre poste, il vous paye 700 euros à votre poste ?
Non, je parlais des unités journalières. Parce que, alors, pour remettre des choses dans le contexte, le 25 décembre, j'étais en arrêt de travail. Je me suis cassé la jambe, j'ai un clou, j'ai des vis. La boîte me couvre pendant 3 mois.
Oui.
J'ai un maintien de salaire pendant 3 mois.
Oui.
Donc, une compensation de la boîte, plus mes indemnités journalières de la CPM. C'est ce qui me fait un peu moins du salaire, mais voilà, c'est encore gérable. Mais au bout de 3 mois, la boîte ne paye plus, mais. Enfin, ils sont plus en. J'ai plus maintien de salaire. Donc après, je dépense seulement que. Les indemnités de l'SPM. Donc ça fait depuis presque 3 mois maintenant, c'est compliqué. Très compliqué. Parce que chaque batte hein, ont un nombre de mois pour un maintien de salaire. Il y a des boîtes, c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois, voire plus. Mais la mienne, elle est précisément sur 3 mois. Mais moi, je ne savais pas ça. Il a fallu que j'appelle ma RH pour l'alerter de mon salaire, quoi. Mais ça, on ne vous le dit pas en vérité. Après, il faut fouiner sur... Enfin, il faut chercher un petit peu. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un qui est important donc, pour en venir. On ne peut pas laisser quelqu'un qui est important depuis 3 ans sans prévenir, quoi. Parce qu'on passe d'un salaire presque correct, hein. À avoir 700 euros par mois.
Oui, je comprends. Ouais.
Je couvre la vérité, mais bon. C'est très compliqué.
Bon, il faut quand même que vous cherchiez à contacter quand même ce CSE.
Le CSE.
Oui. Ben oui.
Merci de la part Anne.
Ben oui, parce que là, il faut vraiment que vous revendiquiez votre droit quand même. Hein. C'est tout à fait normal.
Mais après, c'est pas à moi à le faire, c'est plus au manager, c'est plus à la RH, c'est plus au responsable.
Oui, mais faut quand même que vous réclamiez, parce que si vous dites rien, bah, voilà, personne ne bouge.
Bah, fallait-il encore savoir qu'il existait le CSE, quoi.
Oui, mais vous avez des droits. Ça fait combien de temps que vous bossez, vous m'avez dit, dans cette entreprise? 3 ans.
3 ans.
3 ans.
3 ans.
Cette boîte n'a pas le droit de baisser votre salaire, même si vous changez de poste après un accident du domestique, hein, Je veux dire,
oui, oui.
La vie, bon, bah, on a des accidents dans la vie.
Bien sûr.
Et
moi, je comprends pas. C'est,
voilà, et je pense que c'est très curieux ce que vous me dites, parce que normalement, une boîte de 200 salariés, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de baisser un salaire.
Bah, le problème, c'est que c'est pas curieux, comme Olivier.
Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est interdit.
Mais je répète, ce que je dis, c'est véridique, il n'y a rien de curieux, c'est ce qui se passe.
Ah non, mais je sais que vous nous dites la vérité. Mais
ce qui m'inquiète, c'est que. Enfin, ce qui m'a super inquiété, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont autour de moi, donc ceux qui sont de mon entreprise. C'est tout le monde se tait pour ne pas payer. Après, on prend des choses parce que, encore une fois, ils ont ainsi des prévoyances. Ils ont une prévoyance. La boîte a une prévoyance. J'ai eu la RH en lui expliquant ma situation. Donc, on pourrait dire que j'ai plus de maintien de salaire. Donc, forcément, je dépends maintenant de mes indemnités journalières. Donc, ceci m'a dit qu'il y avait ainsi des prévoyances. Elle m'a demandé d'avoir accès sur mon compte de la SPM, que j'ai donné. J'ai une confiance totale avec eux. Elle a tout reçu en me disant, j'ai demandé aussi pour rien s'ils peuvent faire quelque chose. Ça fait des mois qu'on se comment galérer. Et comme je le disais, j'ai repris le travail. Donc hier matin, je travaillais tout dimanche, mais là c'était férié, donc forcément il y a un jour de calage, bref. Et je sais que maintenant, ils savent que je suis revenu, donc... En gros, on me dit, ça veut dire, tu t'es, travaille et tu vas attendre la fin du mois, quoi. Mais sans avoir de compensation, parce que c'est une descente aux enfers, en vérité. C'est vraiment une descente aux enfers. Il y a le loyer à payer, il y a les factures, il y a les choses de la vie quotidienne à acheter, il y a la nourriture. Ça fait 2 mois que je me prive sur plein de choses, en vérité. Et ma boîte.
Ouais,
Ça doit
quand même vous.
C'est très compliqué, ouais.
Vous démotiver complètement. Ouais.
Très compliqué.
Comme je
vous expliquais, j'ai eu la perte de mon frère, j'ai eu la perte de mon père.
Mais oui.
C'était soudain. J'ai jamais baissé les bras, jamais. Il faut rester optimiste, dans la vie. Chacun vit, chacun meurt. Ça, c'est obligé. Il n'y a pas de
ouais.
miracle.
Oui, mais bon.
Il y en a plein qui baissent les bras, mais ouais. C'est pas une raison, quoi. Mais bon, quand ça s'accumule, c'est. C'est un peu idiot, quoi.
Oui,
d'autant plus que, on a beau me dire que je suis un bon élément. On m'adore, mes collègues, j'aurais manqué. J'ai du mal de mes collègues, mais pas
la
boîte.
Du coup, expliquez-moi, Didier, vous faites quoi aujourd'hui? Vous étiez chef de file et donc aujourd'hui, on vous a mis à quel poste?
Maintenant, je suis au dispatch, mais je dois tout faire en vérité. Je suis en préparation, je suis au dispatch. Donc le dispatch, c'est tout distribuer sur tous les restos, parce que les restos, il y en a plein. Je suis au dispatch, je suis en montage de plat, je suis en sortie, je suis au congèle, je suis dans le frais, je fais tout. Donc c'est d'autant plus de travail, malgré ma situation.
Bon. Vous voyez, Anne nous réécrit au 739-21 pour vous. L'employeur est dans l'obligation d'organiser tous les 5 ans donc des élections pour le CSE. Cependant, si aucun salarié ne se présente, il n'y aura pas de CSE. Le RH peut lui expliquer. Ça, c'est ce qu'elle nous dit.
D'accord.
Sinon, elle vous dit, Didier peut aller voir n'importe quel syndicat. Ils ont tous des personnes qui peuvent l'aider et le conseiller. Ils sont très efficaces, quel que soit le syndicat. Ça veut dire que vous pouvez prendre attache avec n'importe quel syndicat. Vous voyez, les sièges des syndicats. Vous les appelez, vous leur expliquez ce que vous subissez.
La situation, oui.
Et votre situation. Et là, à partir de là, vous leur expliquez et ils vont vous trouver un interlocuteur qui va vous conseiller sur les démarches que vous pouvez entamer, vous voyez, les pourparlers que vous pouvez entamer avec votre entreprise. Parce que...
En espérant, comme Olivier, c'est que les moments où je contacte un syndicat, c'est de me dire que mon entreprise va forcément apprendre que je suis devant un syndicat. Donc il y aura forcément... Il y aura une procédure qui va être faite, mais en espérant ne pas les virer. Parce qu'ils vont forcément trouver quelque chose pour...
Mais ils ne peuvent pas vous vous licencier comme ça. Ce qui est certain, c'est que ça va vous mettre en...
Je vais être en porte-à-faux après.
En porte-à-faux, voilà. C'est une situation qui peut être désagréable. Maintenant, vous voyez, en tant que salarié, vous avez des droits. Donc, il faut pas que ces droits soient bafoués et vous devez faire respecter vos droits.
Ce que je cherche, je compte pas faire valoir mes droits. C'est juste pour expliquer que dans le monde du travail, même si on est salarié depuis un an, deux ans, 20 ans, 30 ans, il peut arriver donc parfois une situation qui est donc cocasse, qui est une bête en vérité. Et se savoir mis de côté, quoi. C'est ça que je comprends pas. C'est laisser les gens à l'abandon, malgré leur bon et puis le loyer service, quoi. C'est ignoble. De savoir que mes collègues, mais de savoir que mes dirigeants, mes responsables dorment bien toutes les nuits, sans soucier du mal-être. C'est pas un mal-être. J'ai pas le mot pour décrire, mais la tristesse, c'est une tristesse. Une tristesse. Moi, j'ai pas demandé à me casser la jambe, hein. Mais de savoir que, voilà, je suis triste de savoir que malgré ce qui m'est arrivé, c'est que voilà, on vous laisse tomber. On vous fait croire des choses,
oui,
en disant que voilà, donc je réitère, hein, c'est voilà, ils ont assez de prévoyance et on me demande tous mes codes, on va sur mon compte Amélie, on voit tout, c'est bien prouvé que ce que je dis, il n'y a rien de faux. Hein. Et de savoir qu'au final, qu'ils n'ont rien fait. Ils ont juste attendu le fait que je revienne travailler. Comme ça, on va se dire, Didier, il revient lundi, c'est très bien, il va prendre le travail, il va attendre sa fiche de paie, puis hop, c'est tout. Mais moi, je peux oublier, parce que là, ils mettent vraiment dans un gouffre. Je suis dans un gouffre. Hein. Juste une dernière parenthèse, parce que j'ai dû faire un crédit de 2000 balles quand même.
Oui.
Pour payer mes factures. J'ai dû faire un crédit. J'ai le permis, j'avais envisagé de prendre une voiture. Je me suis dit, je ne prends pas de crédit. Ça ne sert à rien. Et je vais mettre de côté. Et le jour où je pourrais prendre une voiture, j'aurai le véhicule. J'ai dû faire un crédit pour payer mes factures quand même. Parce que, soi-disant, ma boîte va me donner un coup de main. C'est honteux. C'est honteux. Je suis déjà dans le gouffre au niveau finance. Oui, par rapport aux factures de la vie quotidienne. Hein. Mmh. Attention, hein. Et je reprends un gouffre pour un crédit, donc le crédit je le paye tous les mois, hein.
Oui.
Mais ça ils s'en fichent, ça. Oui. Ils savent pourtant,
faites ce que je vous ai dit.
Pour le théâtre, oui. Donc, vous remettrez Anne surtout, hein.
Donc du coup, et tenez-moi au courant, d'accord, Didier?
Il n'y a pas de souci, comment Didier, bon, mon Dieu.
Courage à vous, hein, Didier, et puis
non, merci à vous, force. Juste une parenthèse. Oui, ça va aller, quand je vous écoute, c'est bien, c'est une grande force. Juste une parenthèse et je vous quitte. Hein.
Oui.
Vous ferez le bonsoir de la part de Janine. J'ai écouté Janine hier avec, oui, son fils, oui, qu'elle a retrouvé.
Oui.
J'aimerais bien être en contact avec elle parce qu'il m'arrive aussi des choses. Donc, hier, elle a parlé de pendule. Il y a des gens qui savaient qu'il y avait des choses qui se passaient d'un type étrange. J'aimerais bien discuter avec elle. Mais pour
écoutez,
échanger.
On va, si elle nous écoute, Janine, on, voilà, qu'elle nous contacte et puis on essaie de vous mettre en contact tous les deux. D'accord?
Super, Olivier. Je vous remercie encore une fois grandement, comme Olivier. Vous êtes l'un des meilleurs sur Europe 1, mon Dieu.
Bah, je vous remercie.
Merci pour votre fillette, votre psychologie pour vous et votre patience. Voilà, là. En vous souhaitant une bonne nuit, comme Olivier.
Bonsoir,
merci beaucoup.
Didier.
Bon courage à vous.
Bonsoir, Didier.
Bonne semaine, bon week-end surtout.
Et
au revoir, Olivier.
Restez fidèle à Europe 1. Bonsoir.
Ah, bah, toujours. Voilà. Une bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
Il est minuit 50 sur Europe 1 et nous accueillons Françoise pour terminer cette émission. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où m'appelez-vous Françoise?
De la région parisienne.
D'accord. Et quel âge avez-vous?
80.
D'accord.
Malheureusement.
Bah malheureusement, vous avez l'air en pleine forme.
Non, je suis pas en forme du tout. J'ai une crise de polyarthrite. J'ai du mal à avoir des médicaments. Le médecin, il me croit pas. Il me laisse souffrir. C'est horrible. horrible. Aujourd'hui, j'ai dû pleurer dans son cabinet pour obtenir des calmants, quoi. Non, il a trop de boulot, il est trop pressé, il est enfin bon.
Alors, pourquoi vous m'appeliez, dites-moi, Françoise.
Alors, je vous appelle parce que je suis un peu... Mais finalement, ça me traumatise, moi. Tous ces gosses qui se font tuer, c'est comme s'ils étaient fous, quoi. On se met pas à tuer ses copains de 14 ans. Et alors, je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Parce que j'avais 8 ans, j'étais en pension, j'étais malheureuse comme les pierres. Et puis, je vois passer ma sœur en vélo moteur avec mon frère aîné, qui avait 20 ans. Ils allaient au cinéma. Alors, la fois d'après, c'est moi qui ai eu droit. Et il m'a amené voir un film avec un meurtre. Mais pour moi, c'était un vrai meurtre.
Comment ça, un vrai meurtre?
C'est-à-dire que j'ai vu une femme sur un lit avec un couteau planté dans le thorax, le sang coulait le long du lit, il passait entre les planches de... Je vous le décris comme si je venais de le voir. Entre les planches du plancher, et ça tombait goutte à goutte sur l'étage en dessous. Il y avait des gens qui jouaient aux cartes, des hommes qui jouaient aux cartes. Mais pour moi, c'était du vrai. Comment voulez-vous qu'actuellement, avec ce qu'on vous montre à la télé, les jeux vidéo violents...
Surtout les jeux vidéo violents, parce que à la télé, à la rigueur, je ne pense pas
oui,
que ça soit...
Oui, mais les enfants ne comprennent pas. Les enfants, même si... Vous voyez ce qui m'est arrivé hier? Je ne regardais pas la télé, mais j'avais laissé l'image. Oui. Je jette un coup d'œil. Mais c'était d'une violence. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous vous mettez à la place d'un enfant de 5, 6 ou 8 ans. Vous croyez que c'est ça la vie? Puisqu'ils sont en train de s'entretuer. Ils sont en train de s'entretuer. Pourquoi ne pas faire pareil?
Oui,
vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire que... Il est certain que quand on voit ce qui s'est passé encore aujourd'hui avec cette surveillante qui a été poignardée par un jeune de 14 ans, on a du mal à comprendre comment un jeune de 14 ans ne réalise pas qu'un couteau peut tuer, en fait. Parce que
ils sont tous dans les 14 ans, 14-15 ans, 14-16 ans. Et ils se mettent tous, moi je ne sais pas, où ils ont été drogués, parce que je parlais à Florian, je disais qu'à la guerre, là-bas au Liban, ils ont inventé une drogue qui s'appelle du captagon. Et avec cette drogue, ils prennent un plaisir fou à tuer. Moi j'ai entendu à la radio, ou sur mon téléphone, je ne sais plus. Le gamin, il disait « Allô, maman, j'en ai tué deux !»
Oui, mais bon, ça, c'est... Vous
oui,
avez entendu
c'est
ça...
C'est la guerre, d'accord.
Oui.
Si vous ne montrez que des images de meurtre et de violence aux enfants, pour eux, ça devient normal. Oui. On a le droit de tout faire. Il faut que ceux qui nous gouvernent se bougent les fesses et arrêtent tout ça, quoi. Qu'il y en ait un qui ait le courage de dire stop, on arrête tout.
Mais
ou alors on fait une grève générale.
Tout devrait repartir de l'école. Tout devrait repartir de l'école, Françoise.
C'est-à-dire?
Eh bien, je pense qu'il faudrait réinvestir dans l'éducation des enfants.
C'est trop long.
Non, si aujourd'hui vous réinvestissez dans l'école à partir de 4 ans, 5 ans, et dans 10 ans, eh bien, ces gamins de 15 ans auront reçu une scolarité, une éducation, mais quand je dis éducation, une rigueur dans cette éducation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous écoutez des jeunes profs vous parlez de, malheureusement, de conditions de travail qui sont terribles pour, dans des collèges où ça ne va pas.
Oui, c'est terrible. Bon, moi, j'ai connu une prof, mon Dieu, je ne sais pas comment elle a fait pour tenir le choc. Hein. Je ne sais pas comment elle a pu tenir. On voulait faire les déménager, comme vous avez dit tout à l'heure, au, je ne sais pas dans quelle émission, on les déménage. Elles ne savent pas, à la rentrée, elles ne savent pas dans quel lycée elles vont aller. Donc, elles ne peuvent pas avoir un appartement fixe. Elles déménagent des appartements tous les ans. Et moi, j'ai eu la mauvaise idée d'aller me faire embaucher dans un lycée. Et j'ai été payée 3 mois après. Mmh. On vous donne un acompte, mais à l'éducation nationale, vous n'êtes pas payé. Pendant 3 mois, vous vivez d'air pur et d'eau fraîche.
Vous voyez, moi, l'autre jour, j'ai été tourné dans un collège du 19e arrondissement qui doit être dans un des quartiers les plus pauvres de Paris.
Oui.
Eh bien, c'était un collège qui, visiblement, recevait. Le proviseur me disait que c'était un collège test où il recevait des moyens. Et je peux vous dire que j'ai vu un collège qui fonctionnait avec des gamins qui respectaient les surveillants, qui respectaient les profs. On sentait qu'il n'y avait pas un graffiti dans le collège. Bien évidemment, bon, ils sont pleins de vie à cet âge-là. Vous voyez, mais ça fonctionnait. Et je peux vous dire que c'était dans un quartier qui. Eh bien, parce qu'il y avait des moyens de mise sur ce collège.
Mais des moyens de la part de qui ?
Mais de l'État, et donc de l'éducation nationale.
Et pourquoi on fait ça ?
Eh bien, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire, mais partout, c'est-à-dire dans tous les collèges et dans tous les...
Il faut que tous nos ministres se mettent la main à la pâte. Personne n'en parle.
Bah, écoutez...
Vous n'avez jamais un ministre qui prend la parole pour dire on va faire ça, ça et ça.
Ben oui, mais ça va venir. C'est inévitable. Parce que si ça continue comme ça, je doute que ça puisse continuer comme ça. Parce qu'il y a... Voilà,
ça ne pourra pas continuer comme ça. On va continuer en son entier.
Bon, en tout cas, j'étais ravi.
Très pessimiste.
Bon, mais ne perdez pas l'espoir, ma chère Françoise. Et puis... c'est la fin de l'émission, donc je vais vous embrasser et vous remercier d'avoir appelé. N'hésitez pas à me rappeler un de ces quatre, d'accord ?
D'accord.
Hein ? Je vous embrasse bien fort, Françoise.
Je suis une amie de Mme Corbier, il faut que je l'appelle.
Appelez-la.
Elle donne pas de nouvelles.
Bah alors, appelez-la, Martine.
Je vais lui écrire un petit mot.
Très bien. Mais je vous embrasse, Françoise, en attendant, d'accord ?
Oui.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous aurez passé un moment particulier. C'était particulier ce soir. Demain sera un autre jour.